Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde émission avec Françoise Gernot, émission intitulée « Le différent entre philosophie et poétique ». Bonjour Françoise.
Bonjour à tous, à toutes.
Et comme d'habitude, vous commencez par un court résumé de la précédente émission que nous conseillons vivement à nos auditeurs d'écouter, bien sûr.
Oui, alors mon thème est bien celui du différent, conflit si vous voulez, entre la philosophie et la création poétique et la poésie comme imitation. Donc dans un premier temps, lors de l'émission précédente, j'ai essayé de montrer en quoi l'imitation est éloigné de la vérité de 3 degrés. Quelle imitation ? Eh bien, l'imitation qui est produite par les poètes que sont, bien sûr, Homère et Hésiode, et à leur suite, les grands tragiques. Ces poètes, donc, ne font qu'imiter les actions des hommes, en tout cas par exemple pour Homère l'Iliade et l'Odyssée, ils ne font que l'imiter. Donc s'il y a, je dirais, une politique pure, un conflit pur, la représentation, la figuration littéraire, je vais employer maintenant le mot littéraire, par Homère et sa suite, d'une certaine manière, et dégradé d'un cran de teneur et de vérité par rapport précisément à ce que serait la juste politique ou l'art de la guerre par excellence. Donc, Homère et Hésiode et les tragiques sont donc parce que imitateurs dans un certain déclin par rapport à la chose même, c'est-à-dire l'action héroïque. Nous allons le voir. Quelques brèves lectures, brèves citations. Eh bien, repris-je, il convient d'examiner dans la foulée la tragédie. Nous ne parlons plus d'artisans qui fabriquent des lits ou des tables, tout ça. Nous quittons cette sphère, je dirais, très, très fonctionnelle et très humble, finalement. La tragédie, Homère, rien que ça. Eh bien, repris-je, il convient d'examiner dans la foulée la tragédie et celui qui en est le chef de file, Homère. Nous avions déjà vu dans une première émission, tout à fait au début d'ailleurs, à quel point l'attitude de Platon lui-même, ou de Socrate lui-même, porte-parole de Platon, vis-à-vis d'Homère est ambivalente. Il y a à la fois amour et respect, mais il y a nécessité de parler à l'encontre de ce qu'il a produit. Homère en particulier. Nous entendons certaines gens prétendre que ces poètes tragiques connaissent tous les arts, toutes les choses humaines qui se rapportent à la vertu et au vice et même les choses divines. Donc les lecteurs, ou plutôt ceux qui écoutent, par exemple, les récits d'Homère, qui sont lus, bien sûr, qui sont lus par des aèdes ou des rhapsodes plutôt à cette époque, tous ceux qui les écoutent prétendent justement que Homère et les poètes tragiques connaissent tout, puisqu'ils sont capables de tout représenter, de tout figurer, de manière, encore une fois, mimétique, en imitant ce qui est. Ils n'ont pas pris conscience que ces œuvres étaient éloignées du réel en étant en troisième position par rapport à ce qui est. Oui, nous l'avons vu. Ce qui est absolument, ce qui existe en tant que tel. Ils n'ont pas pris conscience que ces œuvres étaient éloignées du réel, étant en troisième position par rapport à ce qui est, et penser que même sans connaître la vérité, il est néanmoins facile de les produire. Revenons à l'essentiel. Ces imitateurs ne créent en effet que des fantasmagories, fantasmata, et non des êtres réels. Ou alors, il faut examiner si ce qu'ils disent a quelque valeur. Si les bons poètes connaissent quelque chose des sujets qui les font passer aux yeux du grand nombre pour des gens qui parlent bien. Donc, la double critique. Hein. Un, les imitateurs ne produisent que des fantômes. Mmh. Hein. Alors, est-ce que les personnages sur la scène, est-ce que Achille, est-ce que Ulysse sont des êtres fantomatiques ?
Oui. Mmh. Hein.
En tout cas, dans le récit que nous propose Homer et que nous écoutons grâce à l'art des rhapsodes, la question est en suspens.
Ça n'a rien à voir avec le véritable art de la guerre, en fait.
C'est peut-être alors, c'est ça la question. Ouais. C'est ça la question. Alors, est-il légitime de penser justement que ces poètes, Homer le premier, mais aussi les tragiques, ont-ils véritablement une connaissance précise de ces actions des hommes qu'ils déploient dans leurs récits et surtout de la pertinence de leurs actions, de la valeur, je dirais, intellectuelle qui préside à la décision de leurs actions. Voici, je lis. Mais s'il était, je pense, Homer, un véritable connaisseur des choses qui constituent l'objet de son imitation, il déploierait beaucoup plus d'efforts pour ses œuvres que pour les imitations, et il s'emploierait à laisser derrière lui comme autant de souvenirs mémorables des œuvres nombreuses et belles, et il aurait à cœur de faire plutôt l'objet d'un éloge que d'être celui qui le prononce. Autrement dit, Homer aurait plutôt dû être Achille ou Ulysse, créateur encore une fois d'exploits extraordinaires, plutôt que celui qui les narre.
Ouais.
Il y a une condamnation de la littérature, du récit, de la représentation littéraire, je précise, au nom de quoi ? Eh bien, au nom d'un agir primordial, qui est celui du héros. Donc, tu aurais été davantage retenu dans la mémoire des hommes si tu avais participé, toi, personnellement, à la geste héroïque. Alors voilà la question qui est posée à Homer, je cite « Cher Homer, s'il est vrai qu'en ce qui a trait à la vertu, tu ne sois pas en troisième position par rapport à la vérité, et que tu ne sois pas non plus un artisan qui se consacre à la fabrication des simulacres, s'il est vrai que tu te trouves en deuxième position, c'est-à-dire que tu sois créateur, hein, véritable, et que tu aies été capable de définir quelles occupations sont en mesure de rendre les hommes meilleurs ou pire, dans la vie privée ou dans la vie publique, dis-nous laquelle parmi les cités a vu son administration améliorée grâce à toi, comme Lacédémone l'a été grâce à Lycurgue et quantité de cités grandes et petites grâce à plusieurs dirigeants. » Alors vous voyez le supplément d'arguments, hein, quand nous te lisons ou quand nous écoutons, en quoi pouvons-nous penser que tu nous améliores ? Alors tu nous améliores en tant que citoyen, et en quel sens as-tu amélioré la cité, comme l'ont fait, hein, comme l'ont fait donc les grands noms qui sont Lycurgue à l'origine, par exemple, de la constitution de Sparte, Lacédémone.
Oui. C'est
redoutable.
C'est, oui, c'est très complexe. Hein.
C'est redoutable.
Et je pensais, est-ce que les archéologues, les historiens peuvent affirmer que ce que Homer raconte est vrai ou pas au niveau de l'art de la guerre.
Alors, la question n'est pas tant de savoir si Homer raconte vraiment ce qui s'est passé sous le nom, je dirais, de l'Iliade, de la guerre de Troie, de l'Iliade. Non, la question n'est pas là. La question est de savoir si, dans sa représentation, alors qu'il montre des guerriers héroïques ayant des plans de bataille et du reste un grand roi qui prend des décisions, est-ce qu'il a eu le sentiment véritable, la connaissance véritable de ce qu'était l'art du gouvernement ?
Et pourtant, Homer
l'art de la guerre.
Homer est enseigné partout dans l'éducation.
Et justement, c'est là où la provocation de Socrate est je pense, inaudible. Elle est redoutable, elle est inaudible. Oui. Alors maintenant, avant ou après la pause musicale, je ne sais pas, nous allons parler essentiellement de la tragédie. Car ce qui est visé, c'est fondamentalement la tragédie, le déploiement scénographique d'une tragédie qui produit des affects, et nous allons le voir, des affects qui troublent l'âme.
«
Alors sur Radio Alliance Plus, après Brahms, comme dans la première émission, nous retrouvons François Gernon pour finir donc cette analyse, le différent entre philosophie et politique, et poétique, pardon, et nous arrivons donc à la tragédie, en fait. Tout ce que vous avez expliqué avant est pour aboutir à la tragédie.
Alors, avant de procéder à la critique de la tragédie, nous verrons le point essentiel peut-être, Platon ouvre une grande parenthèse philosophique sur la nature de l'âme. L'âme comporte une partie qui turbulente, toujours en conflit avec elle-même, qui est, je dirais, la partie pulsionnelle, en termes freudiens, la partie affective. Et l'âme possède une seconde partie qui est celle qui, au contraire, d'origine divine et immortelle, vise à la sérénité, l'équilibre, la raison et la mesure. Alors, nous allons voir que le théâtre joue non pas sur justement la part rationnelle de l'âme, mais sur cette part de l'âme, cette partie de l'âme qui, je dirais, vit, qui tremble en quelque sorte de sentiments, d'affect, de passions contradictoires. Ces passions contradictoires, ou en particulier l'une d'entre elles, la pitié, la compassion, c'est cela que le théâtre tragique produit dans l'âme du spectateur. Et c'est là la catastrophe. Alors, je vais lire. Donc, il y a d'une part l'élément qui est disposé à une imitation multiple et bariolée, c'est l'élément excitable. Imitation multiple et bariolée, on évoque aussi les couleurs du peintre, la multiplicité des couleurs. Et d'autre part, le caractère réfléchi et serein, toujours égal à lui-même. Celui-ci peut être imité facilement, et si on le représente, il n'est pas aisé de le reconnaître, surtout s'il s'agit d'une foule assemblée pour la fête ou de toutes sortes de gens réunis au théâtre, car cette imitation leur présente un état d'esprit qui leur est étranger. Donc la foule, il s'agit d'abord de la foule. La foule au théâtre, évidemment, son âme en quelque sorte, celle qui est sollicitée par le dramaturge, c'est cette âme inférieure qui est multiple, bariolée, fondamentalement excitable. Le poète imitateur de son côté, manifestement, n'est pas naturellement porté vers ce principe rationnel de l'âme. Et s'il veut maintenir sa réputation auprès du grand nombre, la foule, toujours le propos violemment antidémocratique de Platon, son savoir-faire, le savoir-faire donc du poète imitateur, ne tend pas à le conforter, la part rationnelle de l'âme, il vise plutôt le caractère excitable et bariolé du fait qu'il est facile à imiter.
Oui, ce qui fait la notoriété
il éveille, de la tragédie. Un peu plus loin, il éveille cette partie excitable de l'âme, il la nourrit en la fortifiant, il détruit le principe rationnel, exactement comme cela se produit dans une cité lorsqu'on donne le pouvoir aux méchants. Et, analogie entre l'âme et la cité. De la même façon, nous dirons que le poète imitateur instaure dans l'âme individuelle de chacun une constitution politique mauvaise. Il flatte la partie de l'âme qui est privée de réflexion, celle qui ne sait pas distinguer le plus grand du plus petit et qui juge que les mêmes choses sont tantôt grandes, tantôt petites. Il fabrique artificiellement des simulacres et il se tient absolument à l'écart du vrai.
Ça fait tout à fait penser aux médias.
Aux médias. Oui, alors effectivement, nous pouvons penser aux médias et nous, aujourd'hui, nous vivons essentiellement dans un monde de fantômes, de fantasmagories. La prise du réel est médiatisée par un flot d'images.
Et c'est facile, en fait, de flatter cet aspect.
Bien, l'accusation la plus grave. Alors, quelle est-elle l'accusation du plus grave? La voici. Quand les meilleurs d'entre nous, alors, il ne s'agit plus de la foule, il s'agit maintenant des meilleurs d'entre nous. Quand les meilleurs d'entre nous entendent Homère ou quelque autre poète tragique imitant un de ces héros accablés, pense à Achille qui vient en deuil de son ami
Hector.
Voilà. Quand les meilleurs d'entre nous entendent Homère et quelque poète tragique imitant un de ces héros accablés par le malheur, qui déclame une longue plainte mêlée de gémissements. Et quand on voit ces héros qui chantent en se frappant la poitrine, tu sais bien que nous éprouvons du plaisir, nous les philosophes, entre parenthèses, que nous prenons du tu sais bien que nous éprouvons du plaisir et que nous nous laissons prendre à les suivre, à partager leurs souffrances et que nous mettons tout notre sérieux à faire l'éloge du bon poète, c'est-à-dire de celui qui a le mieux réussi à nous mettre dans un tel état. Alors, ce qui est en question maintenant, c'est ceci. C'est assez compliqué. 606A, j'ai dû vraiment travailler mon texte.
Malaxer tout ça.
Platon reprend, comme souvent. Il reprend les choses, je vais essayer de lire ce que j'en ai tiré. Sur quoi porte donc la pire condamnation que l'on puisse effectuer de la poésie imitative? Les poètes donc assouvissent la partie de l'âme qui éprouve de la jouissance à se lamenter. Tout se passe comme si l'âme humaine inférieure était, comment dire, construite en quelque sorte pour éprouver du plaisir. Du plaisir, de la jouissance à se lamenter. Il y a dans cette partie de l'âme un désir de jouissance de la douleur.
Ce qu'on appellerait, enfin, moi qui me fait penser au voyeurisme, en fait.
Ah non, je crois pas.
Non.
Non, je crois pas.
Il faudrait, attiré par,
il faudrait regarder du côté du monde pulsionnel tel que l'a défini Freud, hein, dans sa complexité. La partie rationnelle de l'âme, donc, relâche devant le spectacle, relâche sa vigilance et cède justement à ce désir du pathétique. Et ceci parce qu'il n'y aurait rien de honteux pour le spectateur philosophe à éprouver de la compassion, de la pitié pour un autre. Cet autre, c'est le héros tragique. Par exemple, encore une fois, Achille en deuil de Patrocle ou Édipe, victime d'une faute tragique. Ce héros tragique représenté sur scène. Rien de honteux non plus, il n'y aurait donc rien de honteux non plus pour le spectateur, disons philosophe, à admirer et louer l'auteur du poème ou du drame. Où donc le danger réside-t-il? L'accusation la plus grave qui est formulée contre la poésie, c'est que la pitié, la compassion sont contagieuses. Et donc, elles troublent l'âme. Elles brisent en quelque sorte cet idéal platonicien, mais qui sera aussi celui des stoïciens, la tranquillité de l'âme. L'idéal, c'est la tranquillité de l'âme. Et il y a quelque chose d'extrêmement suspect dans cette jouissance que nous avons à éprouver de la pitié pour un personnage qui n'est pas nous-mêmes. Alors nous savons comment Aristote dénoue le dilemme pour sauver en quelque sorte l'effet théâtral en disant que le théâtre produit, grâce à la crainte et la pitié qu'inspire la mise en scène et le jeu des personnages, le spectateur vit une purgation de ses passions. Donc il est en quelque sorte, par la jouissance même tragique, régénéré.
Régénéré. Régénéré, oui,
voilà. Et nous voyons la grande distance entre Platon et Aristote, son élève. Évidemment, Aristote connaît tout ça par cœur.
Alors je fais allusion, parce que ça a lieu jusqu'à l'automne, à cette belle exposition sur Achille,
bien
c'est
sûr,
au Musée de la Romanité.
J'y ai pensé.
Et on va peut-être voir d'une autre façon cette exposition quand on va réécouter votre émission et votre analyse.
Alors, il s'agit bien sûr de résister à cet amour passionné que nous avons pour le théâtre, comme nous devons résister lorsque nous vivons une crise amoureuse, une déception amoureuse. Voilà, il y a en effet dans cette analyse quelque chose comme un travail de la déception de la part de Socrate. Alors je continue, voilà la suite. Il faut bannir évidemment, il faut bannir les poètes, les grands poètes qui ont la prétention, auxquels on a accordé la prétention d'éduquer la Grèce, et pourtant, peut-être faut-il sauver quelque chose de la poésie. Alors j'ai souligné au tout début que ce qui était en jeu, ce qui était banni, c'était la poésie imitative. Y a-t-il une poésie qui ne soit pas imitative ? Oui. Il faudra cependant, je lis, rester vigilant, les hymnes aux dieux et les éloges des gens vertueux seront la seule poésie que nous admettrons dans notre cité. Alors, je m'explique. Quelle différence y a-t-il ? La poésie, disons, homérique, elle est figurative. Elle relève de la représentation, de la mauvaise part de la représentation. Alors, en revanche, les hymnes aux dieux et les éloges ne sont pas de nature imitative. Alors, en termes modernes, on dirait qu'ils proposent un langage performatif. Par exemple, quand vous priez, je prends l'exemple classique de la prière, quand vous priez, vous ne dites pas, vous ne proclamez pas, peut-être, ça supposerait quand même quelques nuances, mais lorsqu'on prie, lorsqu'on s'adresse à Dieu, c'est une adresse, ce n'est pas une description. Voilà, donc les hymnes aux dieux et les éloges des gens vertueux échappent à la mimésis. Ça, c'est tout à fait intéressant, en tant qu'ils sont justement... qu'ils ont cette valeur de performatif. Je viendrai un jour sur la question du performatif. Alors maintenant, je lis. Compte tenu de ce qu'elle est, nous avons eu des raisons valables de la voir, donc la mimétique, la poésie, précédemment bannie de la cité. C'est en effet notre raisonnement qui nous le commandait. Disons-lui encore, pour qu'elle ne nous accuse pas de rigidité et de grossièreté, qu'il est ancien, le conflit entre la philosophie et l'art de la poésie. Donc ce que nous disons n'est pas nouveau, mais ça se renverse. En effet, alors ça, ce sont les citations des poètes contre les philosophes, ou contre la philosophie. En effet, la chienne qui aboie contre son maître, cette glapissante, est celui qui est grand dans les bavardages des insensés, et la foule des maîtres experts, et ceux qui ergotent subtilement, simplement parce qu'ils sont dans le besoin, ils veulent de l'argent, et mille autres choses qui sont les signes de leur vieille opposition le montrent clairement. C'est-à-dire que l'attaque contre la philosophie, avec ces mots extraordinairement injurieux, a été portée d'abord par les poètes. Et les poètes imitateurs. Voilà.
Mais vous avez bien dit au début que tout cela n'est que projet. Donc dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé à Athènes ou dans les autres cités grecques ?
De toute façon, Platon s'est tombé à plat, si j'ose dire. Et quant aux tentatives de Platon d'aller construire des cités vers la Sicile, c'est une catastrophe totale. Alors maintenant, il me reste une minute pour dire, je dirais, le plus sensationnel. En effet, dans les lois de Platon, livre que rédige Platon, il meurt avant de l'achever. Dans les lois de Platon, reviennent les auteurs tragiques pour demander leur accès à une nouvelle cité dont il s'agit de tracer les plans. C'est une colonie d'Athènes. Bien. Et alors, que leur opposent ceux qui tracent une nouvelle colonie, une nouvelle cité, une nouvelle constitution. Eh bien, ceci, je lis et je terminerai là-dessus. Voilà la réponse. Excellents étrangers, puisqu'ils viennent d'Athènes, dirions-nous, auteurs de tragédie, nous le sommes nous-mêmes. Auteurs de tragédie, nous. Les fondateurs de cité, nous le sommes nous-mêmes, et dans la mesure de nos forces, de la plus belle et de la meilleure. En tout cas, la constitution politique en son ensemble, celle que nous proposons, se veut une imitation de la vie la plus belle et la meilleure, et c'est vraiment là, à notre avis du moins, la tragédie la plus authentique. Cela dit, si vous êtes des poètes, nous le sommes aussi, et pratiquant le même genre de création, nous sommes vos rivaux dans la fabrication et la représentation du drame le plus beau, celui que seul est naturellement apte à mener à son terme la loi véritable, telle est notre espérance. En conclusion, la vie politique, c'est une dramaturgie. Alors, nous le savons aujourd'hui,
on est dans un contexte très particulier.
Et c'est là le coup de théâtre, en quelque sorte, c'est là le coup de théâtre de ces nouveaux fondateurs d'une nouvelle cité. La véritable création poétique, la véritable création tragique, c'est la nôtre. C'est la nôtre.
Et merci à vous, Françoise. Je pense qu'avec ces deux émissions et les deux précédentes, Ombre et Lumière. Nous sommes presque au point sur Platon, la République. Merci à vous.
C'est une lecture infinie, Platon.
Merci à vous.